والتدمير والتهجير والاغتيال وسفك الدماء للقضاء على انتفاضة الشعب الفلسطيني البطل.
Sunrise, oh sunrise, my favorite time of the day. I'll wake up, make some coffee, look at the garden, and start making some music. Every day pretty much the same, and yet so different.
Bienvenue sur les 3-8. Ce soir, les ondes de la grenouille émettent depuis les hexagones de la fondation Vasarely à Aix-en-Provence, où se tient le festival Seconde Nature jusqu'au 22 septembre. Au moment où je vous parle, a lieu le vernissage de l'exposition autour de la thématique du flux. Ici, les différentes installations sont autonomes, mais disposées dans l'espace de telle sorte que le public est pris dans un flux global. Au fil de la déambulation du spectateur, les œuvres s'enchaînent, se superposent, s'enchevêtrent presque, un peu comme la musique et les programmes coulent en continu à la radio. Et c'est bien pour ça qu'à la fois actrice et victime de son propre flux, la grenouille se devait bien en profiter pour interroger d'autres flux. Avec nous pour fabriquer une heure de flux batracien, Lise Cousinier, à qui l'on doit la programmation et la scénographie de cette exposition multimédia autour du flux. Sur ce plateau, nous accueillons aussi les artistes Doux & June, Frédéric De Wild, Emmanuel Abendroth. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Et merci de vous prêter au jeu du flux radiophonique. Alors pour commencer, petite illustration sonore de cette exposition par Amélie Agut. Thank you. Alors Lise, tu as donc rassemblé différentes œuvres multimédia pour construire cette exposition collective autour du flux. L'expo occupe une place centrale dans la programmation du festival Seconde Nature. D'ailleurs, on tombe d'emblée sur l'installation autour de l'arborescence qui se trouve sur l'affiche de Seconde Nature. Comment s'est fait le choix des œuvres pour donner une cohérence à tout ce flux ?
Ben déjà, j'ai fait une exposition thématique. Donc, comme vous savez, Seconde Nature, c'est la fusion entre arborescence et territoire électronique. Donc déjà, pour arborescence, je faisais la programmation multimédia et autour de thématiques, comme l'an dernier, la lumière. Donc c'est vrai qu'un mot peut évoquer, chez moi, me permet en fait de voir comment je peux centraliser des œuvres autour d'une thématique. Donc là, c'est le flux. Je me suis intéressée plus sur le flux informatique, tout ce qui était flux vidéo, flux audio, etc. Donc comme j'ai que 5 espaces, j'ai sélectionné 5 artistes, enfin 5 œuvres, qui peuvent cohabiter pardon, entre elles et qui peuvent répondre en tout cas à cette thématique sur des points de vue assez précis. Il y a le flux, tout ce qui est RTV, l'œuvre de Peter Sinclair et Cyril Delalleu, qui est sur la télévision, le flux de la télévision. Il y a aussi l'œuvre donc, de Douzen June, qui est sur la perturbation on va dire, des ondes téléphoniques, puisque c'est à l'aide d'un portable qu'on perturbe l'œuvre. Pardon. Ensuite, Fred De Wild avec des poissons aveugles qui émettent des ondes sur le son et sur la lumière, en fait, qui transforme tout ça. Et ensuite, Manuel de Labo, qui est une perturbation graphique générative sur le son aussi.
Il y a aussi une sélection de vidéos.
Il y a une sélection vidéo, oui, du Cube, ici les Moulineaux, et du Centaure. Aussi, donc, et l'œuvre donc, dont tu parlais, qui est celle du hall d'accueil, qui est de Matt Pack, qui est en fait une œuvre générative, elle aussi, graphique et sonore, enfin qui marche en fait, qui capte les flux sonores en fait, des visiteurs et qui génère en fait des sortes de pissenlits. Voilà, donc ça c'est l'œuvre de départ en fait qui a fait le visuel aussi de Seconde Nature, de tout le festival en fait.
C'est un petit clin d'œil à Arborescence, j'imagine.
Il y a plusieurs clins d'œil parce que je ne peux pas échapper à l'historique de Seconde Nature qui est aussi lié à Arborescence. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres, en fait, même le Centaure qui est un rapport... parce qu'avant, pardon, Arborescence était sous-titré Art Nature Nouvelle Technologie. Donc on retrouve même dans l'œuvre de Douzen June... on voit que ce n'est pas que les hommes qui sont perturbés par les ondes, il y a aussi des chiens et des oiseaux. Donc je retrouve toujours ce lien avec la nature, ainsi que l'œuvre avec les aquariums, où on retrouve les poissons. Bon, là, ils sont aveugles, enfin, c'est une spécificité. Enfin, je retrouve toujours un lien avec cette nature en fait, qui est omniprésente. Quoi. C'est vrai que moi, je fais toujours une programmation avec un clin d'œil comme ça.
Mais en fait, tu dois puiser dans des œuvres qui existent déjà. Tu ne peux pas demander à ce qu'on crée des œuvres en fonction d'une thématique que tu as choisie.
Ben, j'aimerais bien. C'est vrai que l'idéal serait que les œuvres soient créées spécifiquement pour une thématique ou autre chose. En fait. C'est vrai que ça demande beaucoup de moyens. Là, ici, c'est des œuvres qui existaient, que j'avais envie de faire venir depuis longtemps, des artistes, de les rencontrer et de les voir, en fait, exister dans la fondation. Ça, c'était important, quoi. De les voir exister entre elles. Faut savoir que, quand même, quand on crée une scénographie pour une exposition, les œuvres s'adaptent, ne sont jamais telles qu'à l'origine. Elles s'adaptent toujours en fonction du lieu. Et ça, c'est très intéressant de voir ça. C'est vrai que par rapport à l'œuvre de Labo, ils ont adapté les couleurs en fonction aussi des autres œuvres à côté, en fait. Donc ça, c'est intéressant.
Et tu as tenu aussi à créer comme un flux continu entre les œuvres, puisqu'on est dans différents espaces hexagonaux, mais c'est comme si ça s'arrêtait jamais.
Ça me touche particulièrement. C'est pas volontaire, forcément. Mais c'est vrai que dans une exposition, il y a quand même un sens de visite. Donc c'est vrai que je pense pas que ce soit fait exprès. Ce serait mentir que de dire ça. Mais on essaie d'avoir une fluidité, parce que le flux, c'est une fluidité, effectivement. Et les œuvres se répondent bien entre elles. C'est vrai que je trouve que c'est assez réussi cette année.
Merci, Élise.
Merci.
Alors, d'où tu es chinois, mais installé à Paris depuis une quinzaine d'années, pas quelques années, déjà 15. Ici, à la Fondation Vasarely, tu présentes une installation qui s'appelle Perturbation. En fait, il y a un grand écran où une vingtaine de personnes vaguent tranquillement à leurs occupations. Un homme répare des chaussures, un autre un vélo, une fillette coud, une femme tient un bébé dans ses bras. Tout est calme, les mouvements sont assez minimes, jusqu'à ce que le spectateur sorte son téléphone portable de sa poche et perturbe la scène en composant un numéro de téléphone. Alors ça donne ça. D'où ce que les auditeurs n'ont pas pu deviner, c'est que tu utilises à la fois la peinture, la photo, la vidéo et l'informatique. Peux-tu nous expliquer comment tu procèdes et à quel niveau intervient la technologie dans ton œuvre ?
Ah, c'est une question assez large. Toute mon histoire personnelle. Et oui, tu parles, j'ai commencé la peinture, la photo, l'installation. J'ai passé toutes les expériences de la création de assez classique, le moyen de création assez classique. C'est la fin de, les années 90, j'ai commencé à entrer dans l'informatique et parce que je trouve que c'est le seul moyen qui était pour la création dans l'art contemporain, c'est le seul moyen qui est le plus récent et plus nouveau et c'est une domaine vierge. Même il y en a déjà 20e année, mais il n'est pas encore stabilité dans l'histoire de l'art contemporain. Et ça, c'est la raison que j'entre dans ce domaine. Et aussi, je me sens que dans l'art contemporain, il y en a épuisé et la crise de la création. Ça veut dire, ça, c'est l'autre question. C'est la question que pourquoi j'ai utilisé l'informatique.
Et alors, comment tu fais concrètement ? Parce qu'on est comme devant un grand tableau, presque, et on sent qu'il y a à la fois de la photo, peut-être découpée, de la vidéo, mais des mouvements très minimes au départ. Comment concrètement tu joues de toutes ces influences ?
Ok, votre question, plutôt, c'est sur la perturbation de l'œuvre. Et ça, c'est je fais exprès que sur l'image, il y en a, comme la photo, il est immobilier, et certains, c'est une boucle de l'image, de la vidéo, et ils tous sont attendus, très calmes. Après, je laisse une possibilité de le spectacle qui est utilisé le numéro de téléphone pour la perturber la séquence de l'image, mouvement, quand j'ai le son bruit. Et l'idée, c'est que le bruit de son, c'est ce que vous avez déjà entendu. Et c'est un son dans la vie quotidienne, il est agréable et il est désagréable. C'est-à-dire, c'est un bruit de son qui signifie qu'il y a quelque chose, peut-être c'est votre parent, les amis. Et c'est un son qui va apporter un sentiment assez joyeux, peut-être, mais un certain bruit de son, ça va apporter une signification très ennuyeuse. C'est quelqu'un qui sait ce que vous ne pouvez pas savoir, ou quelqu'un qui sait le pas hasard. Et c'est une production sentimentale dans la vie quotidienne très variée et on n'a jamais attention. Et dans ces œuvres, c'est ce que je fais une idée, que là, je fais une très caricature, très mise en scène, artificielle pour montre. Ça ne dure même pas 15 secondes pour très exagérer. Montre ses sentiments dans notre vie quotidienne.
Et alors, tu utilises les nouvelles technologies, mais tu es loin d'en faire l'apologie. Tu t'attaches plutôt à mettre le doigt sur des travers de l'évolution des sociétés modernes. Donc là, en l'occurrence, comme tu disais, le spectateur est un peu piégé, puisqu'il se retrouve face aux parasites qu'il crée lui-même et que chacun crée avec son téléphone portable. Est-ce qu'on peut considérer que tu adoptes, avec humour, une posture politique ?
C'est une pièce, il est d'abord sur surface, il est plutôt très attaché à la sociologique. Mais le fond, je toujours crois que l'art, c'est toujours le lien de la politique. Et surtout l'art numérique et multimédia. Pourquoi je dis ça? C'est car que je crois que l'art numérique ou multimédia, dernier de sa création, il y a très peu de marché commercial. Et du coup, il soutient ou il lien plutôt ses politiques. Et si on voit l'histoire de l'art numérique, plutôt c'est le dernier, plutôt c'est la politique qui le soutient. Et c'est ça que ça c'est très influence de la création de l'art multimédia.
Mais alors toi, quelle est ta posture à toi en tant qu'artiste? Qu'est-ce que tu cherches à montrer Est-ce que tu cherches à montrer ce qui peut être changé, à mettre le doigt sur...
Sur le social ou plutôt politique? Pour moi, c'est mon avis personnel, que je ne crois pas l'artiste qui peut changer la société ou la politique. Il plutôt c'est juste montrer un phénomène de la société, c'est tout.
Il montre?
Il le montre, oui. La question qu'il montre dans quel domaine, quel point de vue, là, ça dépend de certains artistes. Mais il sait qu'il le montre, mais pas le changement. Oh.
Et ce qu'on peut remarquer, c'est que ton œuvre ne se met pas en route tant que le public ne l'a pas activée en s'impliquant. Quelle place donnes-tu au spectateur?
Ah oui, c'est très, très le typique caractère de le phénomène de la création de la multimédia. Multimédia, il est très lien de le grand public. C'est-à-dire une création, les éléments de la participation de le grand public, ou on dit spectacle, qui est très important. Ça veut dire une offre, il toujours attendre de son visiteur au public qui va participer pour clencher ou animer ou commencer une pièce.
Tu sors le spectateur de son état de passivité?
Ah oui.
Quelle est l'idée derrière? Est-ce que l'idée c'est de donner, c'est que le spectateur devienne responsable de son regard, voire auteur de son propre regard?
Pas le responsable, mais c'est le réveiller plus de son une façon de regarder de son la vie. C'est-à-dire que quand le spectateur rentre les œuvres, ça a un bouton de clencher pour qu'il sait comment il a regardé son la vie quotidienne. Peut-être il y a un changement de façon de regarder. Et c'est une regarde, ça veut dire un artiste qui crée ses œuvres, il laisse une place pour le spectateur qui rentre dedans, ça la réveille. On peut une autre façon regarder notre la vie quotidien.
D'accord. Bon, je vous propose de faire une petite pause dans ce flux de paroles. On va brièvement ouvrir le robinet musical avec Aphex Twin, Deep in Velvet. We'll be right back. Frédéric et Emmanuel, vous êtes basés à Bruxelles et travaillez avec Labo, qui présente ici deux installations, dont 12 mètres 4 secondes. Emmanuel, tu peux nous expliquer ce qu'est Labo et un peu cette installation ?
Ouais, donc on présente cette fois-ci deux installations. La première s'appelle 12 mètres 4 secondes. Déjà, comme le titre suggère, ça détermine un espace-temps, 12 mètres, et que si on marche à vitesse moyenne 12 mètres, ça prend 4 secondes. Donc l'œuvre installe un espace-temps dans lequel on capte le mouvement des personnes qui nous permet de créer en fait un champ de vecteurs, d'influencer en fait un champ de vecteurs sur lesquels des particules circulent pour retrouver leur propre chemin dans ce champ de vecteurs. Chacune de ces vecteurs de ce champ s'oriente selon le mouvement de personnes qui passent le long de cette œuvre. Et il y a en fait une latence dans ces aiguilles qui fait que le mouvement s'imprime un peu dans le temps sur cette surface. Et de cette manière-là, l'œuvre reflète des flux, des passagers, en traduisant ces flux sous forme de graphiques qui évoluent à leur propre manière selon toutes les traces qui sont imprimées sur cette surface dans l'espace. L'autre chose qui est assez importante, l'installation lui-même est basée sur un miroir sans teint sur lequel on projette de l'arrière, qui fait que sur l'endroit où on projette avec la lumière, on voit en fait de l'autre côté ce qui est projeté, et à l'endroit où on projette du noir, ça reste un miroir. Donc le résultat, ou le visiteur qui se voit confronté à cette installation, voit d'une part la réflexion, d'autre part la projection, qui se mêle en fait dans le mouvement qu'il est en train de faire. Et donc le tout est un travail sur l'espace, sur l'architecture, dans lequel l'installation elle-même est pensée comme un lieu de passage et qui utilise l'input du mouvement de visiteurs pour créer en fait une autre perception de l'espace qui est dans le temps, d'où de nouveau le titre spatio-temporel 12 mètres 4 secondes. Ce travail est bien spécifique par rapport à notre propre démarche. Labo, c'est laboratoire d'architecture d'urbanisme. Donc on a une formation d'architecte, on est parti de l'architecture et à la rencontre des nouveaux moyens de création, l'ordinateur, on a découvert que peut-être il y a d'autres formes d'espace à créer. On peut parler du réseau, on peut parler de l'espace électronique ou même sur l'architecture, la manière comment on perçoit, conçoit l'architecture, peut-être il y a des nouveaux moyens. Et de ce point de vue, on est parti les dernières 10 ans à rechercher un nouveau, je ne veux pas dire nécessairement nouveau, mais une manière de voir comment ces technologies peuvent élargir notre perception et conception d'espace. D'où l'installation 12 mètres 4 secondes est un exemple plutôt sous forme d'installation, mais dans lequel on fait également des interventions urbaines, dans lesquelles ça prend plus une dimension architecturale.
Et vous cherchez, tu disais, vous avez travaillé autour de l'espace, donc là on est à la Fondation Vasarely. Comment vous êtes, donc cette œuvre elle existait déjà avant cette exposition, comment vous l'avez adaptée à la Fondation Vasarely ou à cette exposition?
Je dirais que dans l'adaptation, c'est beaucoup plus dans le dialogue avec l'installation de IOD de Frédéric, dans lequel on cherche de croiser ces deux travaux parce qu'ils ont énormément à voir l'une par rapport à l'autre. Et puis, je dirais, dans le choix qu'on a fait, il y a beaucoup de choix par rapport à une scénographie, à l'intégration au lieu. Maintenant, quand je suis ici à la Fondation Vasarely, je trouve que le choix du lieu par rapport aussi le choix de l'œuvre sélectionnée de nous, c'est un très 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 bon mélange. Quand je regarde comment Vasarely à l'intérieur de ses hexagones crée un espace fluide dans lequel il n'y a pas un ordre de déambulatoire, dans lequel il y a une stimulation entre l'optique, le physique, et on est finalement dans un flux, appelons ça un peu léger, un parcours. Et le travail que nous on présente, il marche totalement dans le même esprit. Travailler sur le parcours, sur la découverte de l'espace, c'est un travail qui s'intègre dans l'espace, qui cherche aussi cette monumentalité dans cet espace. Et je suis très heureux simplement de le voir ici. Alors,
qu'est-ce que ça représente justement pour toi par rapport à Vasarely, d'exposer dans cette fondation, par rapport à l'œuvre de Vasarely?
Ben pour moi, Vasarely, elle était un peu l'icône des années 68, la grande France des années 60, où les filles s'habillaient en Paco Rabanne, on volait en Concorde, on roulait en Citroën DS, et on avait dans son salon, en chaise plastique, les Vasarely derrière. C'est une image pour moi qui est pour moi l'image la plus belle que la France a produite. C'est la France que j'aime, des années 60, on regardait Tati, toutes ces choses. C'est de l'avant-garde et elle est partout. Par contre, j'avais toujours un peu cette... Bien évidemment, mes parents sont 68ards, donc pour moi, Vasarely, c'était aussi un peu bon, c'est du baba cool, c'est psychédélique. Donc j'avais un peu... je croyais qu'il était très décoratif, il était très, en fait, passé. Je le voyais plus comme une icône des années 60 que... quelque chose qui persiste. Être maintenant ici à la Fondation, je dois dire que je suis étonné et je vois vraiment l'œuvre qui surgit et qui a une pérennité, une durée. Et donc je découvre un autre Vasarely. Et un Vasarely qui, pour moi, est aussi une personne fondateur pour des questions qu'on se pose aujourd'hui, par exemple dans les arts numériques, qui se rencontrent. Et là où je me vois très, vraiment une très grosse proximité, c'est cette intégration de l'œuvre dans l'architecture, cette échelle architecturale et même monumentale. Et là, de nouveau, beaucoup de liens avec le travail qu'on présente.
Alors pour revenir un peu plus précisément à 12 mètres 4 secondes, donc cette œuvre est collective et dépend aussi, c'est fondamental, de la participation du spectateur. Est-ce que c'est une façon de remettre en cause la notion d'auteur ?
Non, pas du tout. Pas du tout. L'interactivité, elle est conçue, elle est programmée et elle prend en considération certains paramètres sur lesquels cette interactivité va fonctionner. Où cette relation va s'établir. Donc, elle est créée. Et la création est exactement glisse vers cette question-là. Donc, tu peux commencer de souffler devant notre installation, il n'y a rien qui se passe. Donc, nous, on détermine la relation, et c'est aussi de ça, en fait, découle la création. Donc, ça reste un travail vraiment sur... ça reste une création. Le visiteur... Bien évidemment, il y a un changement de rapport entre le visiteur et l'œuvre. Mais de croire que tout d'un coup, le visiteur devient acteur, mais il ne devient pas créateur. C'est quand même une différence. Et pour nous, ce qu'on recherche dans notre manière de travailler, c'est de rendre les paramètres de l'interaction visibles afin que le visiteur peut anticiper au processus qui est mis en place. De nouveau, regardez Vasarely. Certaines œuvres travaillent tellement fort sur la perception, on peut appeler ça de l'interaction, de nouveau. Et ce n'est pas pour ça que, parce que tu anticipes dans la perception ou dans le regard vers une œuvre, que tu es devenu le créateur. Mais tu anticipes un processus de voir. Ici, dans notre travail, je dirais bien évidemment l'utilisation du miroir, de ton propre image, qui se reflète parce que tu commences d'interagir. Mais là, il y a bien évidemment un jeu sur te rendre conscient que tu fais partie de ce processus qui est mis en place.
Frédéric, est-ce qu'on peut parler un peu de ton œuvre à toi, qui est assez intrigante? Alors, ça s'écrit EOD02, comment ça se prononce? Qu'est-ce que ça veut dire déjà?
Ouais. Donc, EOD2, en fait, c'est un acronyme, donc c'est Electric Organ Discharge 02. Donc, ça veut dire que c'est la deuxième installation de EOD, donc le travail avec les poissons électriques. Donc, ben voilà.
Alors, tu peux nous la décrire un peu
L'installation, oui, bien sûr. Donc, IOD2 consiste de quatre colonnes, une hauteur de 2 mètres et puis 40 cm sur 40. Puis, il y a quatre aquariums aussi, des cubes en miroir teinté. Et puis il y a un colombe qui est au-dessus pour la couvrage, où il y a toutes les interfaces dedans, les antennes, les sensors, tu vois, pour capter les signaux des poissons.
Oui, alors c'est des poissons aveugles.
Ce sont des poissons, tout à fait, ce sont des poissons aveugles, mais ils ont développé un sixième sens, un sens qu'on n'a pas. Et pour ça, c'est très fascinant, quoi. Donc, en fait, ils sont aveugles, ça c'est de l'évolution, parce qu'ils vivent dans l'eau qui est trouble, en fait, dans les rivières de l'Amazonie, et puis j'ai aussi des poissons du Congo, donc plutôt Afrique. Donc, les poissons deviennent un peu partout du monde, quoi. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est très intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi aux poissons, que chaque poisson a un signal individuel. Et dans la famille des poissons, donc il y a aussi un sorte de signal qui est commun. Et donc ça devient à un bout de moment très complexe. Et si on peut rendre ça en son, hein, audible, là il y a vraiment une polyphonie quoi, qui est fascinante. Et par exemple, on a les Black Ghost Knife, hein, c'est un poisson qui vient de rivière Amazonie. Qui a une sorte d'être mort. Donc, il est lié vraiment avec la culture qui était là, en fait. Donc, les gens croyaient que quand il y a une personne qui est morte, et il est réincarné dans un poisson Apteronotus albifrons, donc un Black Ghost Knife. Donc, vraiment, il y a des histoires, même l'histoire dans l'art et tout. Donc, c'est très vaste. Mais je reviens sur ta question. Donc les quatre colombes. Et puis, il y a aussi des baffles en dessous chaque colombe. Donc, chaque colombe, en fait, représente le signal de l'aquarium. Donc, on a quatre ou cinq sortes de poissons différentes. Donc, il y a des signaux qui sont plutôt sinusoïdales, donc des sawtooths et des choses comme ça. Et puis aussi, des plops et clicks, des glitch music, on peut dire, en fait. Et la combinaison est très intéressante. Le poisson même, en fait, il y a dans le queue, il y a un organe de sac qui a une tache blanche avec le poisson Black Ghost Knife. Et c'est ça qui produit la décharge d'électricité. Donc, tu peux imaginer ça comme un nuage électrique autour de son corps. Et puis, quand il y a un autre poisson ou un objet là, donc c'est complexe, on ne sait pas encore comment ça se fait, mais le poisson perçoit ça comme un poisson ou un objet, ou je ne sais pas.
Donc ça veut dire que les poissons qui viennent d'Amérique latine, d'Amazonie ou d'Afrique peuvent communiquer entre eux ?
Oui, donc... Excusez-moi. Les poissons peuvent communiquer entre eux avec les signaux électriques. Donc, c'est pour communiquer, mais aussi pour saboter les signaux des autres poissons électriques. Donc, ça devient aussi, à nouveau, très intéressant et plus complexe. Et aussi pour chanter des paroles, comment on dit ça en anglais? On dit courtship songs, des paroles de séduction, en fait. Donc, là aussi, il y a quelque chose. Donc c'est complexe.
Et ils perçoivent, donc ils sont aveugles, mais ils perçoivent aussi la présence du spectateur, c'est ça ? Comment ils...
Ça on ne sait pas en fait.
Parce que j'ai lu qu'ils interféraient aussi avec le spectateur. Je me demandais comment c'était possible.
On ne sait pas, on peut juste présumer, assumer hein, que c'est le cas. Parce qu'en fait, même nous ici, il y a des signaux électriques partout. Notre corps est devenu un terminal où il y a du data, d'informations cosmiques, on peut aller plein de choses. Donc en fait, l'aquarium devient un peu, et avec les poissons, devient un peu l'antenne de peut-être de tout ça, ou une représentation de ça, je ne sais pas.
Et comment toi, tu es venu aux arts numériques en général, et à ces poissons aveugles en particulier, et à toute cette installation IOD
Ouais. En fait, j'ai fait tout un trajet. J'ai aussi commencé avec une prééducation en architecture. Puis j'ai fait la peinture, j'ai terminé tout ça. Puis la sculpture. Puis j'ai fait encore un postgraduat en art numérique. J'ai fait la philo un petit peu. Et j'ai voyagé surtout. Et je trouve que, en fait, toutes les choses qui sont passées chez moi, elles sont fondamentales, les changements fondamentaux, c'est à cause des voyages ou des rencontres avec des gens ou des expériences.
Et en fait, par exemple, aux États-Unis, j'étais au Johnson Atelier Technical Institute of Sculpture. Et à ce moment-là, j'étais très intéressé dans tout ce qui était pierre. Donc vraiment complètement quelque chose de différent. Mais en fait, petit à petit, je suis commencé aussi avec faire des expériments avec le son et le marbre. Par exemple, on peut tracer en fait l'impact de Michelangelo hein, sur les statues. Par exemple, David, il y a des taches où il a vraiment frappé avec son marteau et tout ça. On peut mesurer ça et mesurer la force que Michelangelo a créée quoi. Donc, est-ce qu'on peut rendre ça audible ou tu vois? Donc, j'étais déjà sur ce chemin. Mais là, en États-Unis, dans le Johnson Atelier, j'ai eu la chance de travailler avec un Omec. C'est une machine énorme, monstrueuse, très américain, monstrueuse, et où tu peux mettre une pièce d'arbre dedans, marbre dedans, et ça coupe le marbre avec un bras mécanique sur 90%. Et donc j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon marteau dans les montagnes? Donc ça, là... J'ai eu vraiment une réflexion très forte.
Et les poissons? Alors, comment tu en es venu à cette installation ouais, ouais. Et aux poissons?
Donc, en fait, j'ai fait des projets avant, par exemple, le cryogenic. Et là, j'ai utilisé de liquide nitrogène. Et ça a une température de -197 degrés. Et en fait, j'ai congelé une petite jardin.
Donc c'était moins 97.
Donc c'est déjà ouais. La nature et tout ce truc ça. Et puis à un bout de moment, j'étais dans le zoo d'Anvers et j'ai vu une sorte de murène, un électrophorus électricus en fait. C'est un poisson de haute voltage. Donc ça existe aussi. C'est un poisson qui peut produire des voltages entre 500 et 700 volts. Donc mortel quoi, c'est high voltage. Et j'étais fasciné tout de suite. Et donc, dès que j'étais à la maison, j'étais recherché sur l'Internet. Et puis, bah, il y a aussi des poissons de faible voltage. Et puis, j'ai vu dans un bouquin de l'histoire de l'art, une amphore égyptienne. Et là, il y a une image d'un pêcheur qui capte un poisson. Et puis, deuxième image, le pêcheur touche le poisson. Troisième image, le pêcheur est mort et le poisson tombe à nouveau dans l'eau. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une liaison avec les poissons électriques. Et puis, j'ai fait la liaison avec... j'ai regardé tous les poissons électriques d'haute voltage qui sont dans le Nil. J'ai transposé ça sur l'image que j'ai vue trouver sur la vase, l'amphore. Et puis, c'était un Malapparitus electricus. Et petit à petit, ça évolue, quoi.
Merci beaucoup. Allez, petit clin d'œil musical à ces beaux poissons aveugles avec Aki Honda, Fish Don't Know It. Thank you. Vous êtes toujours sur La Grenouille, on est toujours en direct de la Fondation Vasarely à l'occasion de Seconde Nature, avec Manuel, Frédéric et Dou. Alors, dans la plupart des installations, le flux est double, à la fois réel et virtuel. La réalité des mouvements du spectateur ou de l'air, pour ce qui est de l'installation de Peter Sinclair, modifie un flux visuel et sonore. Est-ce que, selon vous, à l'heure où le monde des avatars de Second Life prennent de l'ampleur, l'un des enjeux majeurs des arts numériques, c'est de réfléchir aux interactions entre réel et virtuel. Je ne sais pas qui veut se lancer. Manuel, wow. Merci.
Combien de temps j'ai? Je crois qu'il n'y a pas de réel et de virtuel. Point.
Bon, alors,
donc la question, c'est comment on travaille aujourd'hui avec les technologies et comment on travaille dans notre société avec les technologies qu'on possède. Et chaque travail est réel et chaque œuvre a une réalité et elle intervient dans un contexte réel. Donc il n'y a pas de virtuel là-dedans.
Vous êtes d'accord pour vous? Oui, visiblement, oui. Ouais. Mais alors, est-ce que vous cherchez à recréer du lien entre l'humain et le numérique, à rendre concrète et à humaniser les nouvelles technologies?
Encore une fois.
Alors, qui peut se... D'où tu veux te lancer? Est-ce que vous, à travers vos œuvres, une des idées, c'est de recréer du lien entre l'être humain et le numérique, d'humaniser les nouvelles technologies, de les rendre plus concrètes.
Dans mon travail, dans mon création. C'est comme je te dis, j'ai créé c'est le humanisme de. T'as tout un jeu. C'est un peu exigeante, mais je dis que mon création, c'est vers l'humanité. Et moi, je n'ai pas dit directement que c'est le numérique, le lien de l'humanité. Mais forcément, parce que j'utilise ces technologies de numérique pour exprimer mon point de vue de critique de l'humanité, de l'humanisme. Et si c'est pas assez facile, simple, une phrase, dire qu'on travaille pour le numérique, lien de l'humanité, et parce que la technologie, c'est technologique et artistique, c'est artistique. Lien ensemble, c'est comme ça dépend de l'artiste. Et dans la majorité de création de la. Dans le milieu des médias, et je me sens que beaucoup c'est la publicité de la technologie. Et du coup, c'est pas, c'est mon point de vue personnel, la majorité, ça veut dire au moins 80% de pièces, c'est pas assez lien de l'humanisme ou lien de l'artistique. Beaucoup, j'ai dit très directement, c'est la publicité. De la puissance de la machine aux puissances de la technologie ou de numérique. Et il reste très peu d'artistes vers le sens de ces deux qui jouent ensemble. Mais c'est rare. Ça me convainc, la pièce qui me convainc très très peu.
D'accord. Et pour vous?
Moi je crois que la question est absurde.
Merci.
La technologie est faite par des hommes. Donc. À ce moment-là, où tu peux faire une différenciation entre la technologie et l'homme? La technologie est quelque chose que l'homme fait. Donc, si tu veux, on ne peut pas mettre ça en opposé. Donc, on ne peut pas essayer d'articuler quelque chose qui n'est pas qui n'a pas une opposition. Donc, je crois que de nouveau, prenons les choses plus simples. Aujourd'hui, on vit dans une société dans laquelle... La technologie existe et on crée avec. Et pas créer avec la technologie. Toi, tu ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas le faire. Personne ne peut le faire. Voilà. Alors, travaillons avec ces technologies et utilisons-le. Et de cette manière-là, tu travailles dans ton temps, dans ta société, et bien évidemment, ta cible est ta société, et c'est ton entourage, c'est ça, mais pas plus. Il ne faut pas commencer directement à chercher un engagement révolutionnaire, politique, non. Tu vois, on a envie de vivre aujourd'hui, et donc ça implique toute une série de choses. Donc, on travaille avec ça comme une matière, comme quelque chose qui existe, qui est là.
Et est-ce que vous cherchez à repousser les limites de l'art ? Vos œuvres, elles ne sont pas achevées pour aucun des trois de vous. Enfin, elles sont, c'est un processus, si on peut appeler ça comme ça. Elles sont en cours, puisque le spectateur intervient.
C'est une question aussi assez difficile à répondre. Ils ont achevé. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose où il y a une possibilité d'interaction ou quelque chose qui, il y a un processus qui est là qu'il n'est pas terminé. Il est programmé, il est réfléchi, et dans ce sens-là, bah, il y a un travail qui est achevé. Après, dans ce travail, il y a bien évidemment peut-être de nouveaux modes de perception, de nouveaux modes d'expression. Et dans ce sens-là, oui, il y a quelque chose qui est en évolution. Mais moi, je peux te dire, face à Vasarely, moi, je ne peux pas dire que, écoute, on repousse les limites de l'art. Mais non, on travaille dans la continuité de l'art. Et moi, ce que je ressens très fort chez Vasarely, c'est exactement ça.
Toi, Frédéric, ah oui, ou d'où, si tu veux.
Oui, c'est un sujet, ça m'intéresse, parce que c'est la raison pourquoi j'entre le domaine de la technologie, de la numérique. Et parce que moi, j'ai toujours comparé l'époque de la Renaissance. L'époque de la Renaissance, il est très lié à la technologie. C'est-à-dire, c'est grâce à toutes ces technologies qui ouvrent les yeux de l'humain. Du coup, l'homme qui réveille, il regarde lui-même, c'est ça qu'il y a une création dans cette époque, qui l'homme qui regarde lui-même. Et ça veut dire, ça, c'est pas besoin que j'explique plus, ça veut dire l'homme qui sortit de l'ombre de Dieu et avoir une renaissance de la création de cette époque. Et aujourd'hui, la technologie de numérique, il nous donne l'autre vision qui nous ouvre l'homme. Ça veut dire que l'homme était, l'autre façon, recritique l'homme lui-même. C'est ça qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de l'homme qui clone de l'homme. Ça, dans la société, c'est un autre sujet. Mais dans la création, l'art contemporain, et je me sens que c'est la même chose que tout à l'heure, j'ai déjà dit, de l'art contemporain, il y a une crise. Il y a une épuise de la création à partir des années 80. Et du coup, ça veut dire que la limite, il était stable depuis certains moments. Et dans le XXe siècle, et c'est très rare, il y a une période que l'art, il n'y a pas de grande révolution. Et c'est ça qu'il y a une limite. Et bien sûr, j'espère que dans l'art numérique, il y en a quelque chose qui est apporté pour l'art contemporain. Et ça, c'est la raison que je travaille dedans. Mais je ne peux pas dire qu'il y a quelque chose qui a existé. Mais l'artiste qui entre l'a fait.
Merci beaucoup. Bon, faute de pouvoir stopper le flux temporel, il va falloir vous laisser. Vous pouvez voir cette expo autour du flux jusqu'au 27 octobre à la Fondation Vasarely. Lise Cousinier, Douze Njoun, Manuel Abendroth et Frédéric De Wild, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à Amélie et Bertrand pour leur perturbation du flux de parole. Rendez-vous jeudi prochain à 21h30 sur les 3-8 pour un nouveau direct de Vasarely. Ce soir-là, Radio Grenouille et Seconde Nature déplacent leur regard au Liban. Salut!
Thank you. Thank you.